Eh bien, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, soyez les bienvenus sur Fréquence Pop Culture, le podcast qui fait crépiter la pop culture. Donc bienvenue sur cette deuxième saison de Fréquence Pop Culture. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances d'été, que vous avez pu profiter un petit peu du soleil, de la plage, de la montagne. Tout dépend où vous êtes parti, ou peut-être que même vous n'êtes pas parti, mais l'essentiel, c'est d'avoir profité de ces vacances et de s'être reposé. Donc pour ce premier épisode de la saison 2 de Fréquence Pop Culture, j'ai décidé de me pencher sur un film et de revenir sur un film des années 2000, un film que je trouve ultra marquant et qui pour moi est un film culte des années 2000. Je vais vous expliquer pourquoi ce film est un film culte des années 2000 et pourquoi je pense qu'il faut voir ce film et que c'est un indispensable en tout cas dans les films américains à voir des années 2000. Donc je vais vous parler du film Million Dollar Baby qui est réalisé par Clint Eastwood, qui est sorti lors de l'année 2005, avec comme acteur et actrice Morgan Freeman, Hilary Swank et Clint Eastwood en tant qu'acteur et réalisateur. Donc c'est un film, on pourrait dire, qui aura un double genre, ça pourrait être un film sportif, mais aussi à la fois un drame. Je pourrais un petit peu le définir comme ça. C'est un film qui a une durée totale de 2h12 et qui a remporté bon nombre d'Oscars. Donc quand je vous dis que c'est un film qui est plutôt culte et qui est un film à voir, je vais vous donner justement les différents Oscars que ce film a remporté. Donc il a remporté l'Oscar du meilleur film, il a remporté également l'Oscar du meilleur réalisateur, l'Oscar de la meilleure actrice avec donc Hilary Swank, réalisateur Clint Eastwood, et également l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, Morgan Freeman. Donc c'est pour vous dire un petit peu déjà le level de ce film, que ce soit en termes de casting ou en termes de récompense. Je pense que autant les Césars, je suis pas méga fan de la cérémonie des Césars, pour plusieurs raisons, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de films qui sont sélectionnés lors de la cérémonie des Césars. Je trouve que c'est pas les films forcément que le public ont été voir dans les salles. Ça m'a toujours un petit peu halluciné aux Césars, il y a toujours que 5, 6... 7 films peut-être, et c'est les 7 films à chaque fois qui reviennent dans toutes les catégories. Il y a très peu de films qui sont nommés, et comme je vous dis, des films qui n'ont pas forcément attiré le public en salle. C'est un petit peu ça la différence avec les Oscars. Les Oscars, il y a beaucoup plus de films qui sont nommés aux Oscars, et notamment des films qui ont eu un succès en salle. Alors l'Académie des Césars va vous dire oui, si un film a eu son succès en salle, il a déjà eu son succès, il faut faire place aux films qui n'ont pas eu forcément de succès en salle et les récompenser avec des prix. J'ai jamais vraiment compris cette philosophie des Césars, mais en tout cas les Oscars en tout cas n'ont pas du tout la même philosophie, n'ont pas du tout la même démarche, et je préfère la démarche des Oscars, voire même de la Mostra de Venise, qui pareil est un peu plus varié en termes de films que les Césars, qui est une cérémonie, je trouve, une cérémonie un peu vieillotte, qui a jamais vraiment évolué. Enfin, je suis pas méga fan des Césars. Mais bon, bref, c'est une parenthèse et je referme cette parenthèse tout de suite. Donc je vais vous faire un petit résumé du film très rapide. Comme d'habitude, ça va être. Alors, comme d'habitude, non, parce que des fois je fais avec spoil ou sans spoil. Là, ce sera vraiment un podcast sans spoiler pour vous donner l'envie de découvrir ce film et vous donner l'envie de découvrir cette émotion que moi j'ai découvert lors de la visionnage de ce film. J'ai envie de me dire que peut-être vous allez découvrir un film qui va vous donner de l'émotion, qui va vous faire ressentir quelque chose vers un genre de film que vous ne seriez peut-être pas, sur lequel vous ne seriez peut-être pas orienté de prime abord, parce qu'on peut penser que c'est un film de boxe, mais on va revenir justement un petit peu après sur cette notion de film de boxe. Mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée de ce podcast. Donc le pitch très rapidement, c'est l'histoire de Frankie Dunn, qui est un ancien entraîneur de talent, qui a écumé les combats et les angles de ring de boxe pendant des années. Il est à la fois entraîneur et à la fois soigneur, un soigneur de talent qui arrive à stopper des hémorragies avec deux cotons-tiges, comme on peut le voir dans des vrais combats de boxe. Donc c'est vraiment quelqu'un reconnu pour ce talent, mais qui malgré tout se retrouve à gérer une petite salle de boxe dans Los Angeles avec un ami, un ancien ami à lui qui s'appelle Scrap, on va y revenir justement un peu plus tard, qui est interprété par par Morgan Freeman. Et du coup, bah, on va revenir un petit peu sur ce personnage qui est hyper important dans ce film. Et un jour, il va y avoir une boxeuse qui va rentrer dans cette salle de boxe qui s'appelle Maggie Fitzgerald. Qui est à la base serveuse dans un restaurant et qui rêve de devenir boxeuse professionnelle et qui va venir un petit peu bouleverser et chambouler la vie de Frankie alors que lui ne veut pas l'entraîner. Donc la particularité de cette histoire, c'est que l'histoire est narrée, toute cette histoire est narrée par Scrap, donc le personnage interprété par Morgan Freeman, qui est donc le co-gérant de la salle de boxe, et justement c'est lui qui raconte cette histoire de ces personnages. Donc on suit cette histoire à travers sa narration, ça c'est hyper important parce que je trouve que ça donne une vraie ligne au film et une vraie direction, une vraie trame.
Elle fait des progrès, la petite.
Oui, c'est à croire que quelqu'un l'aide.
J'ai bien vu vos regards.
Des regards de pitié.
Ne dites pas ça si vous savez que c'est faux. Si je suis trop vieille pour ça, j'ai plus rien.
Si je m'occupe de toi...
Je vous jure que je bosserai si dur.
Tu poses pas de questions. Et de mon côté, j'essaierai d'oublier que t'es une fille.
Alors, pour en revenir sur cette histoire de notion de film de boxe, moi à la base je suis quelqu'un qui aime beaucoup les films qui tournent autour de la boxe. Je l'ai déjà dit souvent, je suis un fan de la saga Rocky, mais pas que, d'autres films de boxe aussi que j'ai vus, parce que finalement je me rends compte que les films qui parlent de boxe, bah finalement ne parlent pas tant de boxe que ça, ils parlent d'être humain, ils parlent de personnages, ils parlent de parcours de vie, ils parlent de galères, ils parlent de force, de conviction, de courage. Pour moi c'est tout ça que vont incarner un petit peu les films de boxe. Et vous voyez, je suis aussi un lecteur de comics, je suis fan de Daredevil, et son père, Battling Jack Murdock, donc son père était boxeur, et pareil, on va retrouver que Matt Murdock a des valeurs de boxeur, il a les valeurs de son père, de ne jamais abandonner, de ne jamais se rabaisser, de toujours se relever. Et ça, c'est des valeurs qu'on retrouve dans la boxe et qu'on retrouve, vous voyez, dans les comics bah, que j'avais avec Daredevil. Donc, il y a toujours ce lien avec la boxe qui, moi, me ramène toujours vers cette notion de valeur. Au-delà du cinéma ou d'une œuvre autre pop, etc., en comics ou autre, dans le monde réel, moi, j'ai découvert la boxe, dans les années 2000, en suivant le parcours aux Jeux Olympiques de Sydney de Brahim Asloum. Moi, c'est vraiment là que j'ai découvert la boxe, où je regardais les matchs de boxe. Ce boxeur m'a touché à l'époque. Je vois encore les images des combats de Brahim Asloum, qui était en catégorie mimouche et qui a un parcours extraordinaire. Et je me souviens encore de sa victoire aux Jeux Olympiques. Ce cri de rage à la fin quand il a gagné ce combat, qu'il y est arrivé.
Brahim Asloum, regardez ce cri de joie, de plaisir, de bonheur. Il a gagné avec ce drapeau français magnifique, Brahim. Quel beau combat, applaudi par le public ici à l'Exhibition Center, acclamé par les managers. Regardez ce cri. Ah là là, heureux, heureux. Il l'a voulu, cette médaille d'or. Il le voulait, ce titre olympique.
Ça représente aussi tout ce qu'a vécu Brahim Asloum, parce qu'après, je me suis intéressé un petit peu à son parcours. Et quand on voyait ce fameux combat où il a gagné ce combat aux Jeux Olympiques, l'œil du tigre dont on parle dans Rocky, bah, je l'ai ressenti dans le regard de Brahim Asloum lors de ce combat. Et quand moi j'ai vu beaucoup d'interviews de Brahim Asloum, et c'est quelqu'un qui est rempli d'humilité, qui a un respect énorme, qui a des valeurs de vie vraiment très très fortes, et tout ça lui était insufflé. Alors c'est ce qu'il raconte dans son parcours, de par son éducation, mais de par la boxe en fait. La boxe lui a insufflé des valeurs fortes et du courage. C'est un catégorie mimouche, c'est genre les boxeurs les moins lourds qu'on peut trouver dans les combats. Je crois qu'il disait que quand il a commencé la boxe, il pesait 35 kilos, donc imaginez, c'est vraiment un tout petit gabarit. Et il allait se cogner face à des gens plus forts que lui. Il y avait même une boxeuse dans son club de Bourgoin-Jallieu qui était apparemment hyper balèze, qui fracassait tout le monde, et ben il a appris à se battre avec elle en fait, et elle l'a repoussé dans ses retranchements, et il s'est battu jusqu'à devenir champion olympique, et après il a même progressé en tant que professionnel dans le parcours de la boxe. Et on sort du cadre du cinéma, mais voilà, ça rejoint un petit peu quand je vous disais que la boxe va au-delà de la boxe. Je trouve que c'est un sport qui incarne beaucoup de valeurs, malgré, on pourrait penser que c'est de la bagarre, enfin, c'est violent quand même la boxe, ça va bien plus loin, ça parle d'histoire d'hommes et de femmes. Et ça, on le retrouve totalement dans ce film, Million Dollar Baby. Donc, pour avant de parler en détail du film, on va revenir aussi sur son réalisateur, donc qui est Clint Eastwood. Clint Eastwood a la particularité d'être une personne qui a clairement vécu deux carrières, une première en tant qu'acteur et une deuxième en tant que réalisateur. Et les deux ont été remplis de succès. Moi, j'adore Clint Eastwood dans les westerns. C'est les films que je voyais à la télé quand j'étais gamin. J'ai grandi avec les western spaghetti. C'est ma culture. C'est pour ça que j'aime aussi Tarantino, qui lui-même a été bercé par cette culture de films western. On a un petit peu ce lien commun, bien que je suis plus jeune que Quentin Tarantino quand même, mais bon, on a quand même ce lien en commun. Et ensuite, alors bien sûr, il y a eu l'inspecteur Harry, tout ça en mode bourrin, mais après, il a eu une deuxième carrière en tant que réalisateur, et je trouve que Clint Eastwood arrive à faire passer une méchante émotion à chaque fois dans ses films. Il arrive à créer des histoires où on s'attache aux personnages, et à tous les personnages, même les personnages secondaires. Moi, il y a deux films qui m'ont grandement marqué de Clint Eastwood, c'est Lettres d'Iwo Jima et Mémoires de nos pères, qui vont raconter une guerre. Au-delà d'une guerre, je dirais même plus une bataille, parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça va nous montrer une bataille qui a eu lieu au Japon. Et ces deux films, Lettres d'Iwo Jima et Mémoires de nos pères, va nous montrer ce combat, le même lieu, des deux points de vue. Côté américain dans Mémoires de nos pères, et côté japonais dans Lettres d'Iwo Jima. Et je trouve c'est extraordinaire parce que ça montre toute la stupidité de la guerre. Ça montre qu'on envoie à cette époque des hommes au front aller se battre, aller tuer un ennemi, et ils ne savent même pas pourquoi ils vont tuer ces ennemis, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font là en fait. Et quand on voit la guerre des deux camps, on voit que la peur est la même, on voit que les craintes sont les mêmes, et on voit que l'incompréhension est la même. Et je trouve que ces deux films-là sont des films qui devraient même être diffusés dans des cours d'histoire même, ou enfin plus qu'on les montre un peu plus, qu'ils soient plus connus. C'est deux films assez peu connus de Clint Eastwood, mais je les trouve tellement importants, et pour moi ça résume la guerre, ça résume la stupidité de cet acte. Et Clint Eastwood a réussi à, on pourrait dire, à trouver l'axe parfait pour montrer, que l'être humain fait n'importe quoi et se bat pour des choses qui sont stupides et font des morts pour rien. Ça, je trouve qu'il avait réussi à le saisir. Et là, dans Million Dollar Baby, il a réussi à capter l'univers de la boxe et l'univers de personnages. Donc, comme je vous l'ai dit, je veux pas vous spoiler ce film, je veux plutôt vous parler des personnages, et en vous parlant de ces personnages, vous donner envie de voir ce film, parce que ce film est tellement particulier, c'est autre chose, ça va au-delà d'un film de boxe. Je ne veux pas vraiment pas vous spoiler, parce que je vous dis, il y a un moment, quelque chose qui se passe dans le film, qui va faire complètement basculer le film vers quelque chose de plus terrible, on pourrait dire, et je ne voudrais pas vous spoiler ce moment. Donc on va parler des personnages, on va revenir sur le personnage de Frankie, donc qui est un entraîneur soigneur de légende, comme je vous l'ai dit, dans le monde de la boxe. Et en fait, c'est un entraîneur qui ne se remettra jamais d'un combat. Donc son ami Scrap, qui gère la fameuse salle de boxe avec lui, son 109e combat à Scrap, justement, en fait, il ne va pas stopper le combat. Scrap va vouloir continuer à se battre, et il va perdre l'usage d'un œil lors de ce combat, ce qui signera d'ailleurs la fin de sa carrière. Et ça m'a un peu rappelé la scène de Rocky, quand Apollo Creed combat Ivan Drago, et que Rocky ne jette pas la serviette pour dire stop, on arrête le combat, et que Apollo lui dit non, je veux faire ce combat, tu ne stoppes pas le combat. Et puis bien sûr, Apollo Creed va mourir sous les poings d'Ivan Drago, et Rocky va s'en vouloir de ne jamais avoir arrêté ce combat. Et c'est exactement la même chose que va vivre cet entraîneur, il ne se remettra jamais de l'accident qui est arrivé à Scrap, et de ne pas avoir stoppé le combat, et il se sent coupable de l'handicap justement que va vivre Scrap. Et c'est une décision qui va le hanter, qui continue de le hanter encore aujourd'hui quand il est à l'époque de ce film, parce qu'il entraîne des boxeurs qu'il a repérés, notamment dont un poulain, on pourrait dire un jeune boxeur qu'il accompagne depuis longtemps, et Frankie lui dit qu'il n'est pas prêt, il lui dit je ne te sens pas prêt à aller faire un combat un peu plus élevé, il ne veut pas le propulser plus haut en fait. Et ce poulain va l'abandonner, il va aller chez un autre manager qui va lui faire faire un combat de plus haut niveau, et il va gagner ce combat. Du coup Frankie va se dire J'ai loupé quelque chose, j'ai pas eu le courage de l'envoyer vers ce combat parce qu'il est toujours hanté par ce fameux 109e combat qui a perdu son ami Scrap en perdant la vue. Et du coup, ça le freine dans ses prises de décision et il n'ose plus envoyer ses boxeurs vers des combats un peu plus lourds, un peu plus forts. Il va même à l'église depuis plus de 20 ans à la recherche de réponses, on pourrait dire. On ne sait pas vraiment s'il croit en Dieu ou pas, finalement. Ça fait 20 ans qu'il va à l'église, 20 ans qu'il interroge le prêtre et qu'il lui pose des tas de questions sur la résurrection, le pardon, toutes ces choses-là. Il met en doute un petit peu tout ce que dit le prêtre à chaque messe, on pourrait dire, mais il y va quand même tous les jours. Et c'est vachement ambigu parce qu'on ne sait pas s'il est croyant, s'il n'est pas croyant, ou alors est-ce qu'il était croyant et il ne croit plus, est-ce qu'il cherche une réponse, on ne sait pas. En tout cas, ça fait partie du personnage et vous allez voir que c'est une notion très importante qui va accompagner le personnage tout au long du film. Il y a aussi un autre mystère dans ce film, vous allez voir qu'on va apprendre que Frankie a une fille, mais qu'il ne la voit plus depuis des années, que chaque semaine il lui écrit une lettre, et que chaque semaine ses lettres lui reviennent, ses retours à l'expéditeur. Sa fille ne réceptionne pas ses lettres et lui retourne ses lettres. Et on ne sait pas pourquoi il ne voit plus sa fille, mais on sent que le lien a été brisé entre deux et que quelque part c'est quelque chose qui le ronge. Et justement, cette relation qu'il n'a pas avec sa fille, qu'il n'a plus en fait, qu'il ne voit plus, quelque part vous allez voir que Maggie, donc la fameuse boxeuse, va un petit peu devenir sa fille, on pourrait dire entre guillemets adoptive de sport, on pourrait dire, mais on va y revenir un petit peu plus tard en revenant sur le personnage de Maggie, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce personnage. Ensuite, le deuxième personnage qui est très important, c'est le personnage de Morgan Freeman, donc qui est un ancien champion qui ne voulait pas raccrocher les gants, et il a payé le prix fort justement en perdant l'usage d'un œil, comme je vous ai dit, donc dans son fameux 109e combat. Et c'est un personnage qui, moi, m'a énormément touché, et quand j'avais vu que Morgan Freeman a eu l'Oscar du meilleur second rôle, ouais, il le mérite, mais... tellement, Morgan Freeman, c'est un acteur que j'adore cet acteur. Je pense que je réfléchissais, je me faisais un petit peu un reminder. J'ai vu tellement de films avec lui, je crois ne jamais avoir été déçu par, une interprétation qu'il a donnée dans un film. J'ai aimé tous ses films. Je le vois depuis tellement longtemps au cinéma que pour moi, il fait partie de ma culture cinématographique, comme Clint Eastwood. C'est ces acteurs qui m'ont accompagné toute ma vie au cinéma, comme beaucoup de monde, et que j'aime beaucoup. Il est exceptionnel. Il dégage un truc, cet acteur de dingue. Et dans ce film, il dégage la sagesse et la bienveillance, un petit peu, dans cette salle de boxe où il y a beaucoup de violence. Et c'est un petit peu le gardien, la bonne conscience, je pourrais dire, de cette salle de sport qui veille à ce que justement les boxeurs se comportent bien. Car je dis bien boxeur parce qu'il n'y a pas de boxeuse dans cette salle. Et on va y revenir justement un petit peu après sur le personnage de Maggie, interprété par Hilary Swank. Mais en tout cas, il veille à ce que tout se passe bien. Et d'ailleurs, il y a un jeune paumé qui est atterri dans cette salle de boxe, qui est là, complètement perdu, qui est un peu foufou, qui dit qu'un jour il sera un grand champion de boxe. Et en fait, c'est un être complètement perdu. Il n'a rien d'un boxeur, il n'a aucune caractéristique ni aucune compétence d'un boxeur, c'est juste un jeune complètement perdu qui n'a plus de famille, qui n'a plus rien. Et pour vous dire la bonté que va faire Scrap et Frankie, ils ne font même pas payer sa cotisation. Ils le laissent venir à la salle, s'entraîner, parler aux gens, laisser vivre. Et vous allez voir que même Scrap, malgré tout ça, lui donne des conseils, est très gentil avec lui, est bienveillant avec lui, et l'accompagne. Il voit que ce jeune est paumé, que de toute façon, il n'a rien dans la vie, il n'a que cette salle de boxe, et que du coup, il l'accueille quand même. Voilà, ça ne le dérange pas, il est même content, il se dit, il a au moins quelque chose dans sa vie, même si c'est pas grand-chose. Et vous allez voir que ce jeune boxeur, enfin qui n'est pas boxeur finalement, se fait persécuter à chaque fois dans la salle par un autre boxeur qui se prend un peu pour un petit caïd, un champion, qui est interprété par Anthony Mackie, donc qui joue le Faucon dans les Avengers. Donc il était plus jeune, hein, quand même en 2005, mais c'était intéressant de le voir dans ce film parce que voilà, c'est un visage familier des Avengers, et du coup il va chercher des noises à ce fameux jeune qui vient s'entraîner, et vous allez voir que finalement on est même au-delà des personnages secondaires avec ce jeune boxeur un peu foufou. C'est un personnage plus que secondaire, et malgré qu'il soit ultra secondaire, on s'y attache. On s'attache à ce personnage et on se dit j'espère que tout va bien se passer pour lui. Ça, je trouve, c'est vraiment génial, et une fois de plus, c'est une grande force de Clint Eastwood. Et puis bah, bien sûr, on va arriver sur l'actrice principale de ce film, donc Hilary Swank, qui joue Maggie Fitzgerald. J'arrive pas à prononcer le nom, mais je crois que c'est Maggie Fitzgerald. Donc qui est clairement le personnage central du film, le personnage qui va être le liant de tous nos personnages et qui va nous guider à travers tout ce film. On va suivre son parcours. Donc elle travaille comme serveuse dans un petit restaurant, un petit boui-boui un petit peu perdu. Elle aime les choses simples de la vie, elle est souriante, elle est joyeuse, elle a de la joie de vivre alors qu'elle vit dans la précarité, elle a pas beaucoup d'argent, on la voit, elle trie sa monnaie, elle est contente dès qu'elle a un petit pourboire, enfin, on voit qu'elle a une vie très très difficile, vraiment pas évidente. Elle vient d'une famille complètement paumée, avec une mère complètement indigne, qui s'est jamais occupée d'elle, elle a une sœur qui a un enfant, elle a fait croire aux allocations familiales, enfin, elle magouille avec les allocations familiales pour toucher des aides sociales, alors qu'elle ne devrait pas les toucher, et un peu, c'est un peu toute cette famille-là, un peu paumée, un peu larguée, vraiment sans sentiments les uns envers les autres, bah ça va être sa famille. Et en fait, malgré tout ça, elle a envie que cette famille soit heureuse, donc elle leur envoie même de l'argent, elle veut que cette famille soit fière d'elle, alors que clairement, sa famille, on n'a rien à faire d'elle. Et vous allez voir que ça aussi, c'est un élément hyper important, et c'est ce qui va aussi faire la détermination et la rage que va avoir Maggie pour s'en sortir. Donc son rêve, c'est de devenir boxeuse professionnelle. Elle veut devenir championne de boxe. Elle s'entraîne tout seule depuis des années, depuis plus de 3 ans. Elle s'entraîne toute seule, elle cogne dans un sac, etc. Et un jour, elle va rentrer dans la fameuse salle de Frankie. Elle va lui demander est-ce qu'il l'entraîne. Lui va refuser, il va dire non, je t'entraînerai pas. Et puis je n'entraîne pas les filles. Je suis un entraîneur de boxe masculin, j'entraîne pas les femmes, etc. Il est catégorique, il veut pas. Et elle va pas lâcher l'affaire, elle va venir à la salle de sport, elle va économiser beaucoup d'argent, elle va se payer 6 mois de cotisation, et elle viendra à la salle, tous les jours, et elle cognera dans le sac, elle va cogner, elle s'arrêtera jamais, jusqu'à ce que la salle de sport ferme. Il y a même un sort où la salle ne... parce qu'en fait, il faut savoir que Scrap, le personnage qui est co-gérant de la salle, vit dans la salle de sport, et un soir, il va aller se coucher, et il entendra cogner dans un sac, et là, il va découvrir Maggie, qui est en train de cogner encore dans le sac. Toute la journée, elle s'est pas arrêtée, elle a cogné, et là, il va lui donner quelques conseils. Et lui va déceler en Maggie quelque chose, il va se dire elle a vraiment de la détermination, elle a quelque chose, elle a l'envie. Et il va en parler à Frankie, il va lui dire franchement il faut que tu entraînes cette fille, elle a un potentiel, elle a quelque chose. Et du coup Frankie va venir vers elle, va discuter avec elle. C'est un homme un peu bougre, un peu comme on dit taiseux, je dirais, pas renfermé, un peu froid comme ça. Et il va lui donner sa chance, elle va lui expliquer sa vie, elle va lui dire que elle a rien dans la vie, elle a que ça. Elle a la boxe et elle veut devenir championne. Lui, il lui dit qu'elle a 31 ans, que c'est déjà vieux pour le monde de la boxe, qu'à 31 ans, il faut 4 ans pour former une boxeuse. Et c'est là qu'elle lui dit, bah moi ça fait déjà 3 ans que je m'entraîne et elle veut devenir championne. Et il va finir par accepter. En condition, il va lui dire de ne jamais remettre en cause son entraînement, de la suivre, de suivre ce qu'il dit, etc. Et c'est comme ça que cette relation va se nouer, et c'est comme ça que Frankie va prendre Maggie sous son aile et la former, et lui apprendre tout ce qu'il sait sur la boxe, afin de mener Maggie au sommet de la boxe. On pourrait dire que c'est un petit peu ça, le pitch du film et des personnages, mais vous allez voir que ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, car vous allez voir, il y a toute une partie qu'on ne voit pas de l'iceberg. C'est cette deuxième partie que je ne veux pas vous spoiler du film, justement, Million Dollar Baby, mais vous allez voir, c'est extraordinaire. Et justement, Hilary Swank, elle est épatante dans son rôle. Et en plus, j'ai vu des making-of où elle s'entraîne. Donc, il faut savoir que Hilary Swank s'est entraînée pendant 3 mois avec un très très grand champion de boxe. Il faut voir qu'elle a pris quand même 9 kilos de muscles en 3 mois pour le rôle. Et quand on la voit s'entraîner pendant j'ai vu le making-of du film, elle a toujours ce sourire, cette joie de vivre. Et finalement, le personnage de Maggie ressemble beaucoup à elle-même en tant que Hilary Swank, car il faut savoir que cette actrice a vécu des choses difficiles. Elle est arrivée dans les années 90 à Hollywood parce qu'elle rêvait de devenir actrice. Et du coup, elle a galéré pendant des mois à Hollywood pour décrocher son rêve. Elle était déjà sportive aussi à l'époque. Et elle a même dormi plusieurs mois dans son véhicule quand elle était à Los Angeles pour réussir son rêve de devenir actrice. Elle a réussi à devenir actrice. Donc finalement, le personnage de Maggie ressemble un petit peu à l'actrice Hilary Swank, finalement, qui elle-même a vécu des choses très dures dans sa vie, qui s'est battue durement pour s'imposer à Hollywood. dans le sport aussi, parce qu'elle était sportive. Et je pense que Hilary Swank a mis un peu, voire beaucoup d'elle, je trouve, dans le rôle, et ça se ressent. Elle est méga touchante, franchement. Enfin, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle, et elle a eu l'Oscar pour ce film, et j'ai envie de dire, voilà quoi, y a rien à dire, voilà quoi. Oscar de la meilleure actrice, c'était plus que mérité, elle l'aurait pas eu, j'aurais pas compris. Tellement elle s'est investie dans le rôle. Extraordinaire, vraiment, c'est vraiment un mix de l'actrice et de son personnage, vous allez voir, c'est une fusion parfaite des deux, je pourrais dire. Niveau réalisation, vous allez voir que Clint Eastwood est très 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 bon au niveau réalisation, ça se ressent, et là où il est très très fort, c'est pour filmer la salle de sport et le ring. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la salle de boxe, et il arrive très bien à filmer en plan large, on voit très très bien cette salle de sport un peu miteuse, un peu vieillotte. Plus après, quand il arrive sur le ring, la caméra passe très fluide, de mode très fluide du couloir, au ring, et il se déplace comme ça vers les boxeurs ou la boxeuse quand on la voit qu'elle est en train de se combattre. Et toujours pour revenir sur cette fameuse salle de boxe, il y a aussi un truc qui est super intéressant que Clint Eastwood a glissé dans le décor. Il a glissé plein de panneaux avec plein de citations sur les murs. Il y en a une par exemple qu'on voit très souvent, d'ailleurs derrière le personnage de Maggie, c'est marqué « Les gagnants gagnent simplement pour faire ce que les perdants ne feront pas ». C'est un exemple, mais il y a plein de citations comme ça. Et quand je vous disais que la boxe c'est un état d'esprit, et je trouve que c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce film, et Clint Eastwood a réalisé un truc super en nous montrant ça. En fait, je trouve qu'il a tout à fait compris l'essence de la boxe et de l'esprit des films de boxe. Donc, moi je vous conseille vraiment ce film. Pourtant c'est un film qui au départ n'avait pas trouvé de financement, il faut savoir que la Warner Bros. Ne voulait pas financer le film au début, alors que c'est un partenaire historique de Clint Eastwood, et puis Clint Eastwood n'a plus besoin de faire ses preuves, et il a galéré à trouver le financement de ce film. Donc vous voyez, il a dû se battre aussi tel un boxeur pour décrocher le financement de ce film, donc Million Dollar Baby. Donc j'espère qu'avec toutes ces descriptions de ce film, j'espère vous avoir donné envie de voir ce film. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à m'en parler sur les commentaires, donc soit sur Twitter, soit sur Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, j'espère vraiment que ça vous a donné envie de le découvrir. Vous allez voir, là, je vous ai vraiment parlé que de la partie visible du film. Vous allez être très surpris en visionnant ce film, et je pense que c'est un film qui va vous donner beaucoup d'émotions. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez découvert ce film suite à ce podcast, j'en discuterai avec vous avec plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur Fréquence Pop Culture pour cette nouvelle saison, donc la saison 2. N'hésitez pas à mettre les fameuses 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast, donc soit sur la page officielle du podcast, soit sur votre plateforme de podcast. Ça aide, comme d'habitude, à un petit peu mieux référencer ce podcast. N'oubliez pas, la culture est partout autour de vous. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao !